Bonjour! Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. Plein soleil, LSTW et protégez-vous. Au programme, la rémission du diabète de type 2. Je suis Charline Labonté et transport en commun. Gratuité pour les plus de 65 ans à Montréal. Bonne écoute!
Source, plein soleil, été 2023. Auteur, Celia Scaramuzzino. La rémission du diabète de type 2. En novembre 2022, Diabète Canada publiait dans ses lignes directrices un nouveau chapitre sur la rémission du diabète de type 2. Ce sujet a fait réagir. Nous jugeons donc important que vous soyez bien informés. En voici les grandes lignes. Qu'est-ce que la rémission du diabète? Un diagnostic de diabète est établi lorsque l'hémoglobine glyquée, un indicateur du taux de sucre dans le sang, est de 6,5% et plus. La rémission du diabète de type 2, elle, se définit comme un retour de l'hémoglobine glyquée dans les valeurs normales, soit au-dessous de 6%, sans usage de médicaments pour le diabète, et ce, pendant au moins 3 mois. Rémission ne veut pas dire guérison. Le terme rémission implique la possibilité de rechute, c'est-à-dire de retour du diabète de type 2 après plusieurs mois ou années de rémission. La rechute se définit par une remontée de l'hémoglobine glyquée à 6,5% et plus, ou par une réintroduction de la médication pour la gestion du diabète ou de ses complications. Dans la majorité des cas, la rémission est temporaire. La rémission, c'est pour qui? Le protocole pour tenter une rémission du diabète demande un engagement important et prolongé. Il peut également entraîner des répercussions négatives sur l'estime de soi si la rémission n'est pas atteinte ou en cas de rechute. Ainsi, la décision de tenter une rémission doit être discutée avec l'équipe de soins et elle doit être prise en toute connaissance de cause par la personne qui vit avec le diabète de type 2. Plusieurs facteurs doivent être pris en considération, comme la présence d'autres problèmes de santé, les aspects culturels et financiers ou les attentes. La rémission n'est pas pour tout le monde. Les personnes qui ont le plus de chances d'atteindre une rémission du diabète de type 2 sont celles qui ont un diagnostic récent, soit moins de 6 ans, présentent un surpoids ou une obésité et qui ont un potentiel de perte de poids, n'utilisent pas d'insuline. À ce jour, il n'existe cependant pas de prédicteur de succès. Par ailleurs, la rémission ne doit pas être tentée chez les personnes qui présentent des complications du diabète. Quant aux personnes vivant avec un trouble des conduites alimentaires ou de santé mentale, elles doivent faire l'objet d'une évaluation minutieuse. Comment obtenir une rémission du diabète de type 2? Les épisodes de rémission du diabète de type 2 ont été observés principalement dans un contexte de perte de poids importante, soit plus de 15 kilos ou 33 livres. Actuellement, 3 approches sont étudiées et reconnues dans la littérature scientifique. 1. La chirurgie bariatrique. La chirurgie bariatrique est l'approche la plus connue, puisqu'elle est étudiée depuis plusieurs décennies. Elle semble aussi avoir des résultats légèrement plus favorables que ceux observés dans les autres méthodes. Toutefois, c'est une approche qui implique une intervention chirurgicale irréversible et qui présente des risques de complications plus élevés. Elle s'adresse aux personnes ayant un IMC au-dessus de 35. Différents types de chirurgie bariatrique peuvent être effectués. Avec cette approche, de 30 à 60% des personnes étaient en rémission après 5 ans. Ce chiffre descendait à moins de 50% après 8 ans. 2. La diète très faible en calories via la prise de substituts de repas liquides. Cette approche est basée sur une alimentation restrictive et très faible en calories constituée de substituts de repas liquides. Elle se déroule en 3 phases. La première peut durer jusqu'à 5 mois et consiste à consommer 3 à 4 repas à base de bouillon et de substituts de repas liquides uniquement, par exemple, Glucerna, Boost, OptiFast. Il s'ensuit une phase de réintroduction progressive des aliments pendant 1 à 2 mois. La dernière phase est une phase de maintien du poids qui associe une alimentation contrôlée en calories et de l'activité physique. En cas de regain de poids, pendant la phase de maintien, des substituts de repas liquides sont réintroduits. Avec cette approche, 50% des personnes étaient en rémission après 1 an. Après 2 ans, il ne restait qu'une personne sur 3 encore en rémission. Le programme d'exercice physique combiné avec une alimentation faible en calories. Cette approche comprend la pratique d'une activité physique structurée pendant 30 à 60 minutes, de 5 à 6 jours par semaine, combinée avec une alimentation faible en calories. Elle peut durer de 4 à 12 mois. Avec cette approche, une personne sur 4 était en rémission après 2 ans. Mise en garde. Il est primordial que la personne vivant avec le diabète de type 2, qui veut tenter une rémission, soit encadrée par une équipe de professionnels de la santé spécialisée en rémission du diabète. Des suivis et des ajustements doivent être faits tout au long du processus pour assurer un déroulement sécuritaire. Par exemple, la médication pourrait être ajustée. La tension artérielle et l'état d'hydratation seront surveillés et des laxatifs ou des suppléments de vitamines et minéraux pourraient être prescrits. La tentative de rémission du diabète de type 2 et son maintien doivent être encadrés par une équipe de professionnels de la santé. À l'heure actuelle, il n'y a pas de preuves qui démontrent que la rémission du diabète en elle-même entraîne une amélioration des conditions de santé et de la personne. Les bénéfices estimés sont en lien avec l'amélioration de l'hémoglobine glycée et la perte de poids qui, elles, sont reconnues pour diminuer les risques de complications du diabète et la résistance à l'insuline. Et si la rémission est atteinte? Si la rémission du diabète est atteinte, des prises de sang devront être faites tous les 6 mois pour assurer l'absence de récidive du diabète. Comme dans la gestion du diabète, les saines habitudes de vie et la surveillance de la tension artérielle et du cholestérol devront également être maintenues pendant toute la période de rémission. Bien qu'il fasse beaucoup parler de lui, le sujet de la rémission du diabète de type 2 n'en est qu'à ses débuts. Rappelons que, dans la majorité des cas, la rémission du diabète est temporaire, qu'elle nécessite un engagement personnel important et qu'elle peut avoir des effets négatifs sur la santé physique et mentale. De plus, le nombre de personnes qui atteignent la rémission et qui la maintiennent est modéré. De ce fait, toute décision en lien avec la rémission du diabète doit être bien réfléchie et prise en connaissance de cause. Elle doit également être encadrée par une équipe de professionnels de la santé expérimentés. À l'heure actuelle, la rémission du diabète peut être considérée chez certaines personnes comme une option thérapeutique supplémentaire pour la gestion du diabète et de ses complications. Elle n'est cependant pas une solution au diabète. Quand vous aurez fini de lire ce magazine, une personne de plus au Québec apprendra qu'elle a le diabète. Au Québec, 1 200 000 personnes sont touchées par le diabète. En faisant un legs testamentaire à Diabète Québec, vous contribuez à soutenir la recherche ainsi que les personnes qui vivent avec le diabète pour l'amélioration de leur bien-être. C'est un geste d'une très grande portée.
Je suis Charline Labonté, un texte de Charline Labonté paru dans le magazine LSTW. Charline Labonté, quadruple médaillée olympique canadienne, Salt Lake City en 2002, Turin en 2006, Vancouver en 2010, Sochi en 2014, est membre de l'équipe olympique canadienne depuis 2000. L'athlète de renom a décidé de s'associer à deux organisations, une canadienne et une américaine, afin de publier une lettre de coming out et de donner plus de modèles féminins LGBT dans le sport nord-américain. C'est le grand jour. Cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Sochi, février 2014. L'événement qui confirme la raison d'être de mes efforts. Je réalise une fois de plus que j'ai réussi à atteindre un de mes plus grands objectifs à vie, ma plus haute marche. Les installations sont parfaites, là où les yeux du monde entier se porteront sur les athlètes qui y feront leur entrée. Aucun son ni mot ne peut décrire les émotions qui m'habitent lors de la marche dans le stade. Quatre fois j'ai eu la chance de participer aux grandes cérémonies, quatre fois très différentes, tatouées en moi. Des quatre, Sochi est mon chouchou, probablement parce que je savais que c'était la dernière fois. Entrée dans ce stade immense, moi si petite mais forte, la foule, les caméras, la fierté, l'équipe canadienne au grand complet comme une grandiose vague rouge. Après quatre longues années de dévouement, pouvoir représenter son pays et le vivre avec les gens qui me sont les plus chers, qui m'ont soutenu et m'ont aidé à m'y rendre, c'est un rêve qui prend forme. Ouf! En plus, y être avec ma meilleure amie sur l'équipe de hockey, Caroline Ouellette, et surtout le vivre avec Anastasia. Anastasia Bouxy, l'athlète canadienne de patinage de vitesse sur longue piste. Anastasia, la personne que j'aime. Cette année, j'ai été comblé. En plus d'une quatrième médaille olympique, j'ai rencontré l'amour de mes rêves. C'est d'ailleurs la faute de Caroline Ouellette. C'est elle qui m'a présenté Anastasia. Caroline et Anastasia se sont rencontrées à un événement organisé par Right to Play pour lequel elles sont ambassadrices. Right to Play est un organisme humanitaire international qui, avec des ambassadeurs dans le secteur des sports, favorise l'insertion de l'activité physique et du jeu pour les enfants de pays défavorisés. Comment est-ce arrivé? Dans une des rares soirées libres de nos vies actives, Caroline a eu l'idée de nous inviter au même endroit, Anastasia et moi. Une poignée de main et c'était ça, l'étincelle. En plus, étant athlètes toutes les deux, nos vies se sont structurées, emboîtées. On est nés sous la même étoile. Nous faisons la même chose, avons les mêmes ambitions, des horaires et un stress semblables à gérer. C'était parti, bien parti. Puis, comble du bonheur, à la fin décembre de cette année-là, elle obtenait son billet pour Sochi. Nous allions vivre l'expérience olympique ensemble. Propagande homosexuelle. L'envers de la médaille. Les nouvelles lois russes, dont, entre autres, celles qui sanctionnent tout acte de propagande homosexuelle. Hétéro ou gay. Malaise. Avions-nous peur? Eh oui. Étions-nous en danger? Aucune idée. L'équipe canadienne n'a toutefois pas eu l'intention de protester. Nous étions là pour une seule et unique raison, celle de compétitionner au plus haut niveau de nos capacités. Le travail derrière notre qualification avait été tellement acharné, personnellement, je ne pouvais pas laisser les distractions extérieures me séparer de mon rêve ultime. Par contre, le sentiment de ne pas être complètement libre pendant la durée des Jeux me laissait un goût amer dans la bouche. Merci la vie, Sochi 2014 s'est déroulé dans la paix et tous les athlètes ont pu se concentrer sur leurs entraînements et leurs performances. Parlant de performance pour les athlètes, les Jeux olympiques sont beaucoup plus que les résultats qui sont diffusés dans les médias. C'est le produit de toutes les années d'entraînement et d'acharnement qui nous ont permis de nous y rendre. Le climax. Pour vous donner un aperçu, ma journée type. Pratique de 2 heures. Entraînement en musculation durant 1h30. Dîner. Entraînement de sprint ou vélo de 1 heure. Une autre pratique de 2 heures. Pour finir avec une session de yoga de 1 heure, 6 jours par semaine. J'ai la chance de faire partie de l'équipe canadienne depuis 12 ans et jamais je n'ai eu le sentiment de devoir me cacher. Tout le monde sait que je suis gay et jamais je ne me suis senti dénigré par rapport à mon orientation sexuelle dans mon équipe. Au contraire, c'est là où je m'y sens le mieux. Le sujet de l'homosexualité n'a absolument rien de tabou avec nous. Nous en parlons et en rions comme c'est le cas avec tous les autres sujets. Quel privilège de pouvoir évoluer dans un environnement comme celui-là qui n'a pas toujours été aussi ouvert. Médaille d'or pour l'équipe canadienne de hockey féminin. J'avais malheureusement des entraînements au moment de la compétition d'Anastasia, mais elle a pu assister à notre match de finale. Sous ses yeux, nous remportions l'or. Cette victoire, nous l'avons célébrée jusqu'au lendemain matin. Nous venions de réaliser l'impensable. Qui croyait honnêtement que l'équipe avait encore des chances de gagner alors que les Américaines menaient 2-0 avec 5 minutes à faire au match? Pratiquement personne. À part les 21 filles qui portaient la feuille d'érable sur leur chandail ce soir-là et notre entraîneur Kevin Dineen, qui nous a fait confiance et par le fait même nous a donné la force nécessaire. 9 fois sur 10, une équipe en face d'un 2-0 en fin de 3e période ne remporte pas le match. Nous étions l'exception. Aujourd'hui, je me remémore cette année haute en émotions. Je suis tellement fier de mes amis, mes coéquipières, le personnel qui nous a soutenus et la grande équipe. Je suis aussi, et je pèse mes mots, fier de qui je suis et surtout d'avoir le courage de le partager avec vous aujourd'hui. Je suis médaillé olympique à 4 reprises. Je suis la fille de parents merveilleux et la sœur d'un frère extraordinaire. Je suis l'ami de gens admirables qui me soutiennent et sans qui je ne pourrais réaliser mes rêves. Je suis aussi étudiante et j'obtiendrai ma maîtrise de l'Université McGill cet automne. Je suis gay, amoureuse et fièrement authentique. C'était « Je suis Charline Labonté », un texte de Charline Labonté paru dans le magazine LSTW.
Transport en commun, gratuité pour les plus de 65 ans à Montréal. Par Jean-François Gazaille, tiré de la revue Protégez-vous. Dès le 1er juillet, les Montréalais de plus de 65 ans pourront voyager gratuitement sur le réseau de la Société de transport de Montréal, STM. Mais ce service n'est pas aussi équitable qu'il y paraît. La mairesse Valérie Plante avait promis la gratuité du transport collectif pour les usagers de 65 ans et plus une première fois lors de sa première campagne électorale en 2017. Elle a remis au programme aux élections municipales de 2021 et en a confirmé la mise en place lors de la présentation de son dernier budget en novembre 2022. Dès juillet, les personnes de plus de 65 ans, habitant l'une ou l'autre des 16 municipalités de l'île de Montréal, pourront en tout temps, et sans qu'il leur en coûte un sou, emprunter les autobus de la STM, le métro, le transport adapté, les trains de banlieue et le REM, lorsqu'il entrera en service. Le titre « Gratuité 65 ans et plus » coûtera environ 40 millions de dollars par année aux contribuables montréalais. La STM avait déjà abaissé à 28,25 $ le tarif d'un titre mensuel pour les aînés, soit un rabais de 40% sur le tarif ordinaire de 94 $. En 2021, les usagers de plus de 65 ans résidant à Laval, dans l'agglomération de Longueuil et dans l'île de Montréal, représentaient 13% de l'ensemble de la clientèle de la STM. La mesure existe en dehors de Montréal. Cette mesure est nouvelle, mais elle n'est pas l'apanage des Montréalais de plus de 65 ans. Les aînés de Laval peuvent, depuis 2014, se procurer sans frais le titre Horizon 65 ans et plus, lequel leur permet de voyager comme bon leur semble à bord d'un autobus de la Société de transport de Laval, STL. Le réseau transport de Longueuil, RTL, est plus pingre. Il met gracieusement sa flotte de bus à la disposition des aînés de Brossard, Boucherville, Longueuil et Saint-Lambert, mais uniquement en dehors des heures de pointe. Dans la deuxième couronne, EXO accorde aussi le même genre de privilèges aux citoyens de plus de 65 ans sous certaines conditions. C'est le cas pour les MRC de l'Assomption, de Terrebonne, de Mascouche, de Saint-Jérôme et de Contrecoeur. Par ailleurs, sur la rive sud, l'agence EXO offre aux citoyens de plusieurs municipalités, sans égard à leur groupe d'âge, du transport public gratuit pour les déplacements à l'intérieur de certains secteurs, Chambly, Richelieu, Carignan, Le Richelin, Roussillon, Sainte-Julie, Belœil et McMasterville. Enfin, une autre catégorie d'usagers peut se déplacer sans frais dans la grande région de Montréal. En effet, depuis juillet 2021, les enfants de moins de 11 ans, accompagnés d'une personne de plus de 14 ans détenant un titre de transport valide, peuvent utiliser gratuitement le réseau de l'Autorité régionale de transport métropolitain, ARTM. Généreux, mais pas si efficace. Bien que la gratuité du transport pour les aînés soit en apparence une mesure généreuse, c'est une fausse bonne idée, estime Axel Fournier, porte-parole de l'Association pour le transport collectif de la Rive-Sud, ATCRC. La gratuité du service local est plus un symptôme qui révèle que le service, à la base, n'est pas efficace, puisque le réseau en place ne suffit pas en soi à attirer des utilisateurs, observe M. Fournier. Sarah Védoyon, directrice générale de Trajectoire Québec, un organisme de promotion des transports publics, est, elle aussi, réticente. Ce n'est pas la meilleure façon de rendre le transport collectif abordable dans une perspective d'équité sociale, dit-elle. Selon Mme Doyon, cette politique tous azimuts a le défaut d'accorder un privilège à des gens qui n'en ont pas vraiment besoin, comme les personnes jouissant d'une retraite confortable parce qu'elles ont toujours vécu dans l'abondance ou qu'elles bénéficient d'un bon régime de pension. On pourrait par exemple rencontrer des situations où une jeune employée de maison sans moyens et vivant dans un quartier défavorisé de la ville devrait payer son transport en commun pour aller travailler chez de riches retraités qui, eux, bénéficient de la gratuité des transports parce qu'ils ont plus de 65 ans. Paradoxal, non? Faisons payer les riches. La seule véritable solution équitable, d'après Sarah Védoyon, consisterait à mettre partout en pratique une mesure déjà en vigueur dans certaines régions, la tarification sociale. Depuis le 1er mai, le réseau de transport de la capitale, RTC, offre en effet un rabais de 33% sur le tarif de tous les titres de transport pour les personnes à faible revenu. Par exemple, une personne seule ayant un revenu annuel de moins de 29 380 $ peut réclamer ce rabais. Il en va de même pour une famille de 4 personnes dont le revenu annuel est d'au plus 54 594 $. Un programme de tarification sociale est aussi en vigueur depuis 2018 à la Société de transport de l'Outaouais, la STO. Le rabais pour les personnes à faible revenu est de 40%. Pour sa part, la Société de transport de Sherbrooke, STS, propose, jusqu'en avril 2024, un rabais de 50% aux personnes et familles à faible revenu. Le coût des déplacements affecte la qualité de vie, insiste Mme Doyon, citant un avis de la Direction de santé publique de la Montérégie adressé à la Communauté métropolitaine de Montréal, la CMM. Publié en 2018, cet avis conclut que, comme le revenu est le déterminant qui a l'impact le plus marqué sur l'état de santé et de bien-être de la population, il est prioritaire pour les municipalités qui composent la CMM d'adopter un modèle de tarification plus équitable pour les personnes à faible revenu. Allez aussi transport et voyage. Comment se déplacer de façon plus durable?
Je sais pas si on doit lire ça, hein?
C'est pas, hein?
C'est d'autres articles, ça.
Cours de natation.
Allez aussi transport et voyage.
Ah, moi, je veux pas lire les mythes. J'aime pas ça, les mythes. Cours de natation, votre enfant sait-il vraiment nager? Je sais pas.
Dernière phrase à lire aussi. Je pense pas qu'on avait à lire ça. Qu'est-ce que t'en penses?
Ben, quand on n'a pas à lire, là, c'est il
ah oui?
Ben oui, hein? Il le biffe, alors... Okay. Puis là, après, qu'est-ce qu'on fait?
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M, à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Serge Hamelin et André Lebeau à la lecture, André Lebeau à la recherche, Nicolas Wartman à la présentation et au montage.